Voici l'information, le journal complet présenté par Thomas Larabie. Avec en Syrie 250 000 civils évacués du nord-ouest ces deux dernières semaines, selon l'ONU, Thomas.
Ils fuient les combats entre le régime de Bachar al-Assad et des troupes djihadistes. Et au nord-ouest, la situation n'est pas plus réjouissante avec la présence depuis deux mois des milices d'Ankara dans le Kurdistan syrien. La majorité des habitants vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés. Reportage dans ce journal.
Moscou met en service un nouveau missile nucléaire et fait craindre une énième course à l'armement avec les États-Unis.
Un missile nommé l'Avant-Garde, une arme absolue selon Vladimir Poutine. De quoi potentiellement remettre en cause le dernier traité de désarmement conclu entre Washington et Moscou. Les départements vont-ils vraiment pouvoir faire repasser leur route à 90 km/h en France? La loi les y autorise depuis jeudi, mais dans les faits, l'affaire est plus complexe. Explication de Stéphane Robert. Et puis à la fin de ce journal, notre correspondante à Athènes, Angélique Kounis, nous explique pourquoi il est plus facile d'avoir la nationalité grecque quand on a deux Oscars et qu'on s'appelle Tom Hanks. Votre invité aujourd'hui, Benoît.
Il s'appelle David Jayes, il est fonctionnaire, auteur et enseignant. Il a publié il y a quelques semaines un essai intitulé « Slow Democracy, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main ». Avec lui, on va tenter de s'arrêter sur le moment social et politique de cette fin d'année 2019 en prenant quelques perspectives historiques.
235 000 Syriens ont été déplacés ces deux dernières semaines, selon l'ONU, 8 ans après le début du conflit, à cause cette fois de l'offensive du régime de Bachar al-Assad soutenue par la Russie dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Les civils fuient vers des zones plus au nord qu'ils jugent plus sûres. Et pourtant, il y a deux mois, les Turcs lançaient l'opération Source de paix dans le nord-est, cette fois de la Syrie. Leur but, chasser les soldats kurdes de la zone frontalière. Aujourd'hui, les combats entre les forces du Kurdistan syrien et les milices soutenus par l'armée turque sont à l'arrêt ou presque. Désormais, 4000 km² de territoire syrien sont occupés par les milices d'Ankara. La majorité des habitants qui peuplaient cette zone frontalière ont dû quitter leurs terres et trouver refuge dans des camps de déplacés sans espoir de retour. Reportage sur place de Noé Pignède.
C'est un camp de fortune au milieu d'un champ boueux, des centaines de tentes blanches où s'entassent les familles de déplacés. Nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de la ligne de front, 4700 personnes vivent ici depuis deux mois, sans eau courante ni électricité. Aïcha Sulta fuit son village sous les bombardements de l'aviation turque.
Tout le monde est parti, nous avons fui sous les balles et les bombes avec nos vaches, nos moutons et nos enfants. Et maintenant nous ne pouvons plus rentrer. On nous a dit que les milices de la Turquie nous avaient volé notre maison et tout ce que nous avions.
Un peu plus loin, un vieil homme nous accueille dans sa tente et nous invite à boire le thé. Son village est lui aussi occupé par la Turquie, mais il est parvenu et est retourné à plusieurs reprises à l'aide de passeurs. Il refuse de nous donner son nom par peur de représailles.
Si je vous dis comment je m'appelle, ils me couperont la tête, car malgré l'occupation des milices turques, je suis retourné plusieurs fois dans ma maison, en secret. Mais il n'y a plus rien, ils ont tout volé, toutes mes affaires, ma moto, mon argent. Il ne reste que les murs. Ces gens sont juste venus pour nous piller, ce ne sont que des voleurs.
Selon les autorités kurdes, l'offensive turque dans le nord-est syrien il y a deux mois a provoqué près de 200 000 déplacés. Des civils kurdes, arabes et chrétiens qui ont fui les combats et qui refusent désormais de retourner vivre dans une région où Ankara fait la loi.
Un reportage de l'envoyé spécial de RFI en Syrie, Noé Pignède. Un sous-traitant américain est mort dans une attaque à la roquette en Irak. Plusieurs militaires américains et des membres du personnel irakien ont été blessés dans la base de Kirkuk, qui abrite des forces de la coalition anti-djihadiste. L'attaque n'est pas revendiquée, mais Washington soupçonne la milice chiite Kataïb Hezbollah, soutenue par l'Iran. La stratégie de la terreur au Nigeria, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, a diffusé jeudi soir une vidéo de l'exécution de 11 hommes présentés comme des chrétiens. Une vengeance selon eux, après la mort du chef de l'État islamique Abu Bakr al-Baghdadi, tué en octobre par l'armée américaine.
La Russie va-t-elle relancer l'escalade nucléaire?
Moscou annonce l'entrée en service de l'Avant-Garde, un missile hypersonique à capacité nucléaire. Selon Vladimir Poutine, ces batteries de missiles sont capables de déjouer tous les systèmes de défense. Une annonce qui passe mal outre-Atlantique. L'arrivée de ces missiles pourrait même remettre en cause le dernier traité de désarmement conclu entre Washington et Moscou. Les précisions de Nathalie Hernandez.
C'est une arme absolue, s'est félicité le président russe. Avec une portée de 4000 km, ce missile hypersonique combinerait plusieurs avantages. D'abord, une vélocité inédite. Elle pourrait atteindre Mach 20, soit plus de 20 000 km/h, alors qu'un missile guidé traditionnel ne dépasse pas Mach 5. Ensuite, une grande manœuvrabilité. Selon Moscou, l'avant-garde serait capable de changer de cap et d'altitude. Ses capacités le rendraient indétectable et lui permettrait de contourner toutes les zones où sont positionnés des radars adverses. Face à lui, les boucliers antimissiles actuels perdraient toute leur efficacité. La mise en service d'avant-garde va-t-elle signer la fin de tout garde-fou pour une nouvelle course aux armements entre Washington et Moscou? Il faudra attendre 2021, date à laquelle le traité START arrive à échéance. Il est désormais le seul accord en vigueur sur la limitation des armes nucléaires entre les deux pays. En août dernier, les Américains suivis des Russes ont en effet quitté le traité de désarmement sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, un traité signé il y a 30 ans. Cet accord avait interdit l'usage de missiles d'une portée allant de 500 à 5500 km et ainsi entraîné la disparition de missiles balistiques russes et américains déployés en Europe.
En France, 24e jour de grève contre la réforme des retraites et la vague des vacanciers de la Saint-Sylvestre arrive dans les gares. 800 000 voyageurs sont prévus ce week-end par la SNCF et le trafic reste très perturbé par le mouvement. Comptez en moyenne 6 TGV sur 10, 3 TER sur 10. À Paris, 6 lignes de métro restent fermées ce samedi. Du côté de la rue, plusieurs actions et manifestations ont lieu aujourd'hui à l'appel de la CGT Cheminots et de Sudrail notamment. À Paris, le cortège part de la gare du Nord à 13h au lieu et à l'heure où se terminera celui des Gilets jaunes. Les syndicats espèrent les voir passer d'un cortège à l'autre. Et pour aider les grévistes, la France Insoumise propose aux députés communistes de mettre en place une caisse de soutien à l'Assemblée nationale. Sur Internet, la cagnotte de grève hébergée par le site Pocommun a déjà atteint plus d'un million d'euros. À la pompe, l'approvisionnement des stations-service est quasi normal, selon le ministère de la Transition écologique, qui assure que les 7 raffineries du pays continuent leur production. La raffinerie de Grandpuits, qui fournit une partie de l'Île-de-France, elle est dans l'attente. Les salariés doivent décider lundi de reconduire ou non le blocage complet des expéditions de carburant. C'est le souhait de la CGT, mais rien n'est gagné sur le terrain. Les salariés de Grandpuits sont divisés. Les raisons de la discorde, des pressions exercées par la direction, selon Thierry Defresne, coordinateur CGT du groupe Total.
C'est une pression énorme en fait qui pèse sur les épaules des salariés de Grandpuits. Au-delà du fait que cette raffinerie a une position tout à fait stratégique pour Paris, il y a aussi en plus qui s'additionne la pression de Total, la direction générale, qui vraiment déploie des efforts colossaux pour faire en sorte que cette raffinerie ne s'arrête pas. Et en l'occurrence, pour exercer une pression forte sur les grévistes, on leur fait des menaces sur la pérennité de leur site. En gros, on leur fait comprendre que s'ils arrêtent les installations pétrolières, eh bien, Total pourrait ne pas ordonner le redémarrage de cette raffinerie. Et les salariés ici sont très inquiets pour leur avenir et ce genre de propos, eh bien, leur fait extrêmement peur. Alors effectivement, du coup, dans les grévistes, il y a certains, une base dure qui veut aller jusqu'au bout parce qu'ils savent très bien, et ce sont souvent les plus jeunes, à quel point cette réforme des retraites va être néfaste pour eux. Puis il y a une autre partie des grévistes qui, elle, craint pour son avenir et justement ne veut pas aller jusque-là.
Le coordinateur CGT du groupe Total, Thierry Defresne. David Jayce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de Benoît Bouscarel dans Les Matins du Samedi. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po Paris et auteur de l'essai Slow Démocratie. Or, la mobilisation contre la réforme des retraites est désormais plus longue qu'en 95, où le gouvernement d'Alain Juppé avait lâché au bout de 22 jours sous la pression de la rue. On en est à 24. On semble bien loin de ce cas de figure. Est-ce que, selon vous, c'est un symbole d'un dysfonctionnement de notre démocratie?
Bah pas tellement en réalité. Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais je trouve que cette mobilisation, au contraire de celle des Gilets jaunes l'année dernière, s'inscrit dans un répertoire de mobilisation assez classique. Et au fond, c'est assez rassérénant, parce qu'on voit qu'il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a des partis d'opposition, il y a des syndicats, il y a des corps intermédiaires qui jouent leur rôle. Et au fond, s'il y a blocage, c'est parce qu'il y a des positions qui sont à ce stade difficiles à concilier. Mais on est quand même dans un répertoire de mobilisation assez classique, assez familier, ce qui forme une grande différence avec ce qu'on a pu voir l'année dernière.
L'année dernière, d'accord. Mais je me disais par rapport à 95 où effectivement, il n'y a pas eu de négociation non plus, on n'a pas réussi, c'est le gouvernement qui a lâché. Là, on se retrouve aussi dans une position où ça ne négocie pas énormément.
Alors, je crois qu'il y a des discussions qui sont en cours. Tous les syndicats, en plus, ne demandent pas la même chose. On est dans une tradition française aussi où on préfère souvent la confrontation à la discussion, ce qu'on pratique plutôt dans les pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques. Mais selon moi, c'est plutôt un indice de vitalité démocratique ce qui se passe.
Merci beaucoup David Jays, on vous retrouve tout à l'heure en longueur avec Benoît Bouscarel.
Autre mobilisation qui dure, Thomas Larabi, celle des urgentistes.
Oui, 10 mois que les médecins sont mobilisés et accentuent même la pression sur la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour plus de moyens financiers et humains. Plus de 1000 praticiens viennent de signer une pétition dans laquelle ils se disent prêts à démissionner de leurs fonctions administratives. Le texte sera remis à la ministre le 6 ou le 7 janvier. André Grimaldi est professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié Salpêtrière, c'est lui qui coordonne la pétition.
Il faut que vous compreniez que les médecins ne font pas la grève des soins. Ça fait partie aussi de leur éthique. Ils ne bloquent pas le système hospitalier. Ils soigneront quoi qu'il arrive. Simplement, c'est à nous les responsables de ce qui se passe. On a franchi un seuil intolérable. Imaginez qu'il y a 900 lits fermés à assistance publique, qu'il y a 400 postes d'infirmières non pourvus, que le salaire d'une infirmière en France, on se trouve en 28e position sur 32 pays de l'OCDE. Donc il s'agit de redresser l'hôpital public qui est en train de s'effondrer. On peut continuer cette marche vers l'hôpital d'entreprise, vers la logique, le business de la santé. Ça ne marche pas, ça ne marche nulle part et ça aura des catastrophes.
Le professeur André Grimaldi au micro de Fabien Hawkins.
Les départements français vont-ils pouvoir faire repasser certaines de leurs routes à 90 km/h ?
La limitation à 80 km/h, souvenez-vous, sur les départementales, elle avait mis en colère les élus et les gilets jaunes l'an dernier. Finalement, devant le tollé, le Premier ministre Édouard Philippe a fait machine arrière juste avant l'été et la loi mobilité, la loi L'Homme publiée jeudi, permet désormais aux départements qui le souhaitent de rehausser la vitesse sur certaines routes, mais dans les faits, les conditions et les contraintes posées par la loi empêchent dans bien des cas les élus d'appliquer cette mesure. Les explications de Stéphane Robert.
Les présidents de département déchantent avec l'autorisation de repasser certaines portions de route à 90 km/h. Les conditions fixées par l'État sont beaucoup trop contraignantes, dénoncent certains. Les services de l'État exigent par exemple qu'il n'y ait aucun arrêt de bus sur une portion de 10 km au minimum, ou encore que sur cette même portion de 10 km, il n'y ait aucune intersection ou sortie privée qui mène à une habitation. Intenable dans bien des cas, les départements devront donc renoncer. Ensuite, certains craignent d'être mis en cause juridiquement en cas d'augmentation des accidents sur une route qu'ils ont fait repasser à 90 km/h. La crainte d'une multiplication des procédures commence à en faire réfléchir quelques-uns. D'autres enfin craignent que ça coûte extrêmement cher cette affaire. Parce qu'auparavant, quand la limitation était à 90, il n'y avait pas besoin de signalisation. Tout le monde savait que c'était la règle. Même chose aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'indiquer que la vitesse maximum autorisée est de 80 km/h. Mais si on repasse un certain nombre de routes à 90, il faudra le signaler tout le long de la portion concernée et ensuite signaler quand on repasse à 80. Il faudra donc des panneaux partout et en grand nombre, et ce sont les départements qui vont payer. Toutes ces contraintes conduisent donc les élus à dénoncer un jeu de dupes de la part du gouvernement, qui, disent-ils, fait semblant d'autoriser le retour aux 90 km/h, tout en fixant administrativement des règles et des contraintes qui l'interdisent.
Les précisions de Stéphane Robert. Le Père Noël grec est passé pour Tom Hanks. La Grèce vient d'offrir à l'acteur américain un joli cadeau, un cadeau dont rêvent des milliers de migrants vivant dans le pays depuis des décennies, la nationalité grecque. Les explications de notre correspondante Angélique Kourounis.
L'info passant tout début du journal du soir en bande-annonce sur la chaîne nationale, l'acteur Tom Hanks, 63 ans, deux fois oscarisé, fait chevalier d'honneur par François Hollande, a désormais la nationalité grecque. Le premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis est personnellement intervenu auprès du président de la République grecque pour accélérer la procédure. Tom Hanks s'est montré, selon les médias grecs, extrêmement généreux envers les victimes des incendies de Mathe qui ont fait l'été 2018 plus de 100 morts. Il s'est déclaré à plusieurs reprises fervent admirateur de la Grèce. Il possède une maison sur la petite île cycladique d'Antiparos. À chaque été, à la fête de Sainte Marine, à la patronne de l'île, il danse avec les gens du village. Il est simple, rit et parle avec tout le monde. Lors des tournages du film Illuminati, il a participé même aux fouilles du site archéologique d'Antiparos pour se mettre dans la peau d'un archéologue. Cette nationalité n'avait en fait que trop tardé. Pourtant, généralement, pour devenir grec, quand quand on ne l'est pas, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut résider dans le pays depuis plusieurs décennies de façon continue, parler la langue, exercer un métier et prouver sa relation avec le berceau de la démocratie. Des migrants qui y vivent depuis plus de 20 ans ne l'ont toujours pas. Des enfants nés en Grèce qui n'ont jamais connu d'autres pays que la Grèce et qui parlent parfaitement le grec non plus. Seule la loi du sang prévalait jusqu'à il y a très peu de temps.
Les précisions d'Angélique Kourounis. Un mot de la météo pour finir, et je vous le donne en mille, Benoît. Du soleil Allez-y. Pour le sud, des nuages pour le nord. Pas de pluie néanmoins. Côté température, comptez 3 à Strasbourg, 7 à Lyon, 9 à Paris et La Rochelle, 10 à Toulouse, 15 à Nice et 16 à Ajaccio. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec l'aide d'Emmanuel Faucillon à la technique, Jordan Fuentes.